Bonjour frères et sœurs, joyeux sabbat à vous tous. J'espère que vous êtes bien rentrés de la fête du tabernacle et que vous avez passé une excellente fête. En Europe, il y a un programme actuel que j'ai trouvé intéressant quand je suis tombé dessus. Ça s'appelle le projet Stolperstein, initié en 1992 par l'artiste allemand Günther Demnig. Il a pour but de commémorer les personnes à leur dernier lieu de résidence, de travail ou d'études, avec quelques exceptions possibles, avant qu'ils ne tombent victimes de la terreur nazie, de l'euthanasie forcée, de l'eugénisme, de la déportation vers un camp de concentration ou d'extermination, ou qu'elle n'échappe à la persécution par l'émigration ou le suicide. En juin 2023, 100 000 Stolpersteine avaient été posés, faisant de ce projet le plus grand mémorial décentralisé au monde. Voici une image d'une Stolperstein et aussi quelqu'un en train de le poser. Ensuite, nous avons l'image de Günther Demnig à gauche et puis une autre image d'une Stolperstein, dans mon bon allemand. Ensuite, nous voyons une carte de l'Europe avec tous les pays qui ont été touchés par ce programme jusqu'à présent. Et finalement, parfois, il y en a plusieurs qui sont posés ensemble quand il s'agissait d'une famille ou un groupe d'amis qui ont été pris en même temps. Un Stolperstein est une cube de béton de 10 cm de côté, portant une plaque de laiton gravée avec le nom et les dates de naissance et de décès des victimes de l'extermination et la persécution nazie. Littéralement, ce mot Stolperstein veut dire pierre d'attente, ou pierre obstacle, ou pierre d'achoppement, nous pourrions dire également. La plupart des Stolperstein commémorent des victimes juives de la Shoah. D'autres ont été posés pour les Sintis et les Roms, appelés à l'époque les Gitans, les Polonais, les homosexuels, les personnes handicapées physiques ou mentales, les témoins de Jéhovah, les personnes noires, les membres du Parti communiste, du Parti social-démocrate et de la résistance anti-nazie. J'ai trouvé ce programme de mémorial très touchant. J'ai lu avec intérêt ce que cet artiste est en train de faire. Il utilise des pierres d'achoppement de manière positive, qui fait réfléchir. Mais dans la Bible, l'expression a un tout autre sens. Une pierre d'achoppement, d'après une dictionnaire biblique que j'ai consulté, une pierre d'achoppement, c'est tout ce qui peut amener quelqu'un à trébucher ou à tomber. Ce terme est utilisé de plusieurs sens, et nous allons voir les différents sens que nous trouvons dans la Bible à propos de cet obstacle, ces pierres d'achoppement. Vous serez peut-être intéressé de voir que c'est employé de manière très diverse. Nous avons probablement une image en tête quand nous pensons à une pierre d'achoppement. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement, il ne faut pas mettre des pierres d'achoppement devant d'autres personnes. Mais en fait, ça veut dire bien plus. Il y a d'autres emplois à ce mot. Alors, je vous propose aujourd'hui de regarder ensemble ce sujet des pierres d'achoppement. Qu'est-ce qu'en dit la Bible? Qu'est-ce que nous devons retenir de cette expression? Dans la Bible, une pierre d'achoppement peut être un objet normal. Par exemple, si nous regardons Lévitique chapitre 19, nous allons voir que c'est dans un sens littéral, pour faire tomber quelqu'un physiquement. Lévitique, chapitre 19, verset 14. Tu ne maudiras point un sourd, et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Dans certaines traductions de la Bible, c'est marqué pierre d'achoppement, un objet qui pourrait faire tomber quelqu'un. Autrement dit, nous ne devons pas abuser des gens puisque nous avons un avantage sur eux. Profiter d'une faiblesse ou un handicap de quelqu'un. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes et ne rien faire qui puisse les gêner inutilement. Donc, une pierre d'achoppement peut être un vrai objet. Et Dieu a dit expressément, il faut rien mettre devant un aveugle, pour se moquer, nous moquer de lui quand il tombera. Ça, c'est un premier sens. Au premier degré, c'est cela. Mais la Bible dit aussi que nous pouvons être une pierre d'achoppement spirituelle pour nous-mêmes. Nous pouvons nous faire trébucher nous-mêmes. Dans Ézéchiel chapitre 7, Ézéchiel chapitre 7, verset 19, Ézéchiel chapitre 7, à partir du verset 19. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver au jour de la fureur de l'Éternel. Ils ne pourront ni rassasier leur âme ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Trop de matérialisme, être trop axé sur le matériel. Verset 20, ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils ont fabriqué des images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers, et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Ils vont tomber dans leur iniquité. Ils vont placer eux-mêmes des pierres d'achoppement sur leur chemin. Quand nous nous éloignons du culte de l'Éternel, quand nous devenons trop matérialistes dans nos pensées, eh bien nous plaçons des pierres d'achoppement devant nous, dans notre chemin. Tout ce qui est matériel peut devenir une pierre d'achoppement. Ils ont fini ici par se faire des idoles, ce qui viole un commandement de l'Éternel également. Trop matérialistes, et ils se sont mis une pierre d'achoppement devant eux-mêmes. Dieu dit, et ceci est intéressant, de manière figurative, Dieu place des pierres d'achoppement devant les pécheurs. Dieu les fait tomber, il les fait trébucher. Ézéchiel toujours chapitre 3. Ézéchiel chapitre 3, verset 20. Ézéchiel 3, verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui, et ce mot piège est parfois traduit par une pierre d'achoppement. Un piège devant lui, et il mourra. Parce que tu ne l'as pas averti, il mourra dans son péché, et on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, et il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir, et toi tu sauveras ton âme. Dans le contexte de celui qui doit veiller sur les autres, sur la tour. Si un juste se détourne de sa justice, je mettrai une pierre d'achoppement devant lui, piège. Le mot en hébreu pour pierre d'achoppement concerne l'appât qu'on met dans un piège. Et finalement, on commençait à appeler les pièges les pierres d'achoppement qui fait tomber les gens. Dieu place des pierres d'achoppement devant les gens qui pêchent, devant les pêcheurs. Ils vont tomber, pas physiquement, mais certainement spirituellement. Et puis ensuite, dans la vie peut s'effondrer sous les gens. Et si vous avez vécu assez longtemps, vous l'avez vu arriver à des personnes qui ont pêché pendant très longtemps, et puis tout d'un coup, soudain, la chute. Et il ne peut plus se relever. Dans Jérémie chapitre 6, le mot, ou les mots pierre d'achoppement figurent en toutes lettres. Jérémie chapitre 6, verset 21. Jérémie chapitre 6, verset 21. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Donc une pierre d'achoppement, quand on tombe dans certaines situations, eh bien c'est fini. Et Dieu fait cela à des gens qui refusent de se repentir. Quand ils sont avertis, ils refusent de se repentir, ils poursuivent le mauvais chemin, eh bien finalement Dieu intervient pour les punir. Donc Dieu place des pierres d'achoppement symboliquement, religieusement, si on veut dire, spirituellement, devant les pécheurs qui refusent de se repentir. Et là, la chute peut être mortelle, même physiquement mortelle. Dieu dit également, à propos des pierres d'achoppement, qui est lui-même une pierre d'achoppement pour les gens incrédules. Ils trébuchent parce qu'ils refusent de croire en le Créateur, en l'Éternel. Ça, nous trouvons dans Ésaïe chapitre 8, verset 14. Ésaïe chapitre 8, verset 14. Il sera, l'Éternel, un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège. Là, nous voyons les différentes significations, qui sont mélangées dans ce verset. Un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem, parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu. Ils ont refusé de respecter ses commandements, ses lois, ils ont refusé de marcher dans la bonne voie. Verset 15. Plusieurs trébucheront, ils tomberont et se briseront, ils seront enlacés et pris. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Dieu sera un sanctuaire pour ceux qui croient, pour ses fidèles, son petit troupeau, mais pour les incrédules, il sera lui-même une pierre d'achoppement. Ils vont trébucher contre Dieu parce qu'ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas accepter de se soumettre à son enseignement, à ses lois. Et Pierre a repris cette image dans 1 Pierre chapitre 2 et il a donné une signification légèrement différente. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. 1 Pierre chapitre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurteront pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il a repris cela, non pas pour parler de Dieu dans le sens de l'Ancien Testament, mais pour parler plus directement de Jésus-Christ. Lui, il est devenu une pierre d'achoppement pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui refusent d'écouter, de s'ouvrir à l'appel de l'Éternel. Dans Romains, nous trouvons le même ordre d'idée, Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, verset 32. Commençons verset 30. Romains chapitre 9, verset 30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël l'a cherchée non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, « Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Finalement, il n'y a que deux issues, il n'y a que deux voies dans la vie. C'est d'accepter Dieu, d'accepter ce qu'il dit, de se soumettre à lui et marcher dans ses voies, ou alors refuser. Et si on refuse Dieu, automatiquement, on est dans la seule autre voie qui existe, c'est la voie du péché, la voie de Satan, de désobéissance à l'Éternel. Maintenant, nous avons déjà vu plusieurs significations, plusieurs sens pour l'expression « pierre d'achoppement ». Dans le Nouveau Testament, il y a un avertissement de ne pas être des pierres d'achoppement ou de ne pas agir de manière à faire trébucher d'autres personnes, en particulier nos frères et sœurs. Dieu juge cela très sévèrement. Prenons exemple dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Nous commençons au verset 1. 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, soit comme il en existe réellement plusieurs faux dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Je vous ai déjà expliqué dans d'autres messages que la plupart des viandes qui étaient vendues dans les marchés dans le monde antique gréco-romain, la plupart de ces animaux avaient été sacrifiés dans un temple ou devant un temple à un dieu païen. Et cela gênait certains nouveaux convertis qui associaient le fait de manger de la viande à une idolâtrie. Et donc, ils ne souhaitaient pas en manger. Ils s'abstenaient de manger de la viande complètement, ils ne mangeaient que des légumes, par crainte de commettre une idolâtrie en mangeant une viande associée à un faux dieu. Paul dit, c'est pas vraiment des dieux, ça ne change rien, ou l'animal, pourvu que l'animal est pur à manger, ça ne sert, ça veut rien dire, ou la bête était abattue. Si tout s'est passé dans des circonstances normales, il est saigné, etc., eh bien, nous savons, il n'y a pas de problème, c'est pas un vrai dieu, il n'y a qu'un seul dieu. Donc, on peut manger la viande qui est vendue au marché, la viande sacrifiée aux idoles. Mais Paul poursuit au verset 7 maintenant. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Ça, c'est ce qu'ils voient, l'idole. Et leur conscience, qui est faible, est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde, toutefois, que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple sacrifié aux idoles, un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne le portera-t-il pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Il va violer sa propre conscience. Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est possible pour un chrétien de faire trébucher un frère ou une sœur spirituellement, de le décourager, de le scandaliser par un comportement qui, en fait, n'a rien de mauvais, n'est pas un péché contre la loi de Dieu. Mais on doit avoir soin des uns des autres et nous ménager les uns les autres. Nous ne voulons pas faire tomber un frère ou une sœur, de les faire abandonner la course chrétienne. En fait, Dieu voit cela très sévèrement, très sévèrement. Alors ça, c'est un chapitre intéressant dans lequel il faudra réfléchir. Est-ce que je peux, en insistant sur mes droits de chrétien, ma liberté de faire ceci ou cela, est-ce que ça c'est plus important que le fait de faire tomber un frère ou une sœur? Et Paul dit non. Si je sais que ça va choquer quelqu'un, même si c'est légal, je ne vais pas le faire. Parce que je ne veux pas choquer, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur. Je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. C'est possible de faire ça. Ça arrive. Encore une fois, si vous avez été dans l'église suffisamment longtemps, vous avez vu des comportements qui ont scandalisé d'autres frères et sœurs. Et peut-être on fait abandonner certains frères et sœurs dans la course chrétienne. Cela s'est passé dans les deux schisme que nous avons eu dans l'Église de Dieu dans les années 1984, 5, 6, et nous l'avons vu aussi plus récemment, 2010, quand il y a eu cette séparation, il y a des frères et sœurs qui ont dit « ça ne vaut pas la peine ». Si eux, ils vont se comporter comme ça, moi je m'en vais. Ça, c'est une erreur qui est très grave, et Dieu prend cela très au sérieux. Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Verset 13. Romains 14, verset 13. « Ne nous jugeons plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. » Pensons à ne rien faire qui pourrait être pour notre frère une pierre d'achoppement et une occasion de chute. Nous ne voulons pas faire cela. C'est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Nous avons tous la capacité de poser des pierres d'achoppement par notre comportement, par nos paroles, par notre zèle ou manque de zèle dans l'Église. Ça peut être une pierre d'achoppement également. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Nous devons faire très attention à cela. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 14, dans les messages aux sept églises, il est question d'une pierre d'achoppement. Apocalypse chapitre 2, verset 14. En parlant à l'église de Pergame, après les louanges qui sont données au début de chaque message, je sais que vous faites ceci de bien, vous faites ceci de bien. Verset 14, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Ils acceptaient des personnes dans leur congrégation qui péchaient et qui piégeaient des frères et sœurs dans le péché. Et Jésus les a repris sévèrement, comme nous le voyons ici. C'est très grave. C'est grave de permettre à cela. Vous rappelez-vous l'histoire de Balaam? Je pense que vous l'avez en tête. Balaam était un prophète, faux prophète, avec qui Dieu parlait parfois pour des fins usages de la préparation de la Bible pour nous. Il était payé beaucoup par un roi, Balak, pour maudire Israël. Mais il ne pouvait pas, parce que Dieu lui a interdit de le faire. Alors nous voyons entre les lignes ici qu'il a conseillé au roi Balak d'envoyer des jeunes femmes chez Israël, de séduire les hommes et de les faire participer dans l'idolâtrie et la débauche. Et Dieu ne pouvait pas accepter cela. Il a puni les Israélites pour cela. Beaucoup en mouraient. Balaam avait mis une pierre d'achoppement devant eux pour les faire trébucher. Et il était puni finalement pour ses manigances. Dans Matthieu chapitre 18, Jésus nous a avertis très strictement, sévèrement également, contre le fait de mettre des pierres d'achoppement. Encore une fois, c'est par des comportements, par des paroles, des choses que l'on fait, les choses que l'on ne fait pas. Matthieu chapitre 18, verset 6. Prenons le verset 5. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Mais si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin, et qu'on la jette au fond de la mer. Ça, c'est grave. Ça serait mieux d'être noyé que de scandaliser l'un de ces petits. Et nous sommes tous appelés petits, petits enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Quand il est question d'un petit, c'est pas seulement les petits enfants physiques, mais les frères et sœurs qui sont des enfants de Dieu. Nous n'osons pas les scandaliser. Nous devons faire très attention à ne rien faire qui pourrait scandaliser, décourager, confondre ou surtout faire pécher un frère ou une sœur. Comme j'ai dit, Dieu, et nous voyons, Dieu prend cela très au sérieux. Jésus-Christ a dit, il vaut mieux être noyé que de faire une chose pareille. Maintenant que nous avons établi le fondement à propos de ce que la Bible dit sur les pierres d'achoppement, tirons quelques conclusions, tirons quelques sujets de réflexion pour nous. Quelles sont les implications pour nous en tant que chrétiens de ce que nous avons vu dans ces passages? Premièrement, nous devons noter que nous avons une responsabilité personnelle. Chaque individu, chaque chrétien, vous et moi, nous sommes chacun responsables des actes et des paroles qui pourraient, par inadvertance, faire trébucher quelqu'un d'autre. Je pense que c'est rare qu'on le fait exprès, par inadvertance, mais nous sommes responsables de nos actions et de nos actes. Même les libertés bien intentionnées doivent être mises dans la balance avec leurs effets sur les autres croyants et ceux qui cherchent Dieu. Et nous devons toujours mettre l'accent sur le fait de ne pas scandaliser plutôt que le fait d'insister « j'ai le droit de faire ceci ou cela ». Responsabilité personnelle. Deuxième implication pour nous, dans l'exercice de la liberté chrétienne, nous devons toujours peser le pour et le contre. Si les croyants mûrs sont encouragés à se servir de leur liberté, à profiter de leur liberté, mais ils doivent le faire pour servir plutôt que pour piéger. Pour servir plutôt que pour piéger. Si une certaine pratique trouble la conscience d'autrui, le principe d'amour peut dicter de s'en abstenir, au nom de l'unité et de la santé spirituelle. Ça, c'est important aussi. Comment exercer notre liberté chrétienne? Nous devons en profiter, mais seulement dans certaines circonstances. Et si ça pourrait être un piège pour un autre frère ou sœur, ça serait une chose à éviter. Une troisième implication pour nous, c'est d'éviter l'hypocrisie. Éviter l'hypocrisie. L'un des obstacles les plus courants dans le contexte religieux moderne, c'est un comportement incohérent ou hypocrite des croyants. Il dit quelque chose le jour du sabbat, et puis on va en semaine et il est en train de faire le contraire. C'est très, très décourageant. Maintenir l'intégrité dans la vie publique et privée est crucial pour éviter de ternir le message de l'Évangile et l'œuvre dans laquelle nous participons. Très important d'éviter l'hypocrisie, d'être toujours être pareil, de vivre de la même façon qu'on soit devant les gens ou qu'on soit en privé où il ne peut pas nous voir. Évitons l'hypocrisie. Et puis, c'est important pour ceux qui ont des responsabilités, ceux qui prennent la parole à l'Assemblée, et dans d'autres circonstances également, nous parlons entre nous, nous devons faire très attention à l'enseignement et la doctrine. Les dirigeants et les enseignants de l'Église ont une responsabilité accrue, car les erreurs doctrinales peuvent induire en erreur de nombreuses personnes. C'est pour cela que nous faisons très attention dans la préparation de nos messages. Nous voulons être absolument collés à la parole de Dieu et ne pas présenter nos propres théories individuelles, certainement pas dans une situation officielle. Ça, nous l'évitons. Un enseignement solide qui s'aligne sur les Écritures aide à éviter des obstacles dans le culte collectif et la pratique quotidienne. Donc, si jamais on nous donne la possibilité, on nous donne la responsabilité d'enseigner, faisons très très attention de nous attacher à la parole de Dieu, de nous attacher aux publications de l'Église qui peut bien nous guider dans l'élaboration d'un sujet. Et même, je dirais, frères et sœurs, même dans nos conversations, nous devons faire attention de ne pas essayer de convaincre quelqu'un que notre dernière idée que nous avons eue en regardant les Écritures, tiens, j'ai trouvé quelque chose de nouveau. Et puis, on peut même de cette façon-là induire les gens en erreur. Ce n'est pas mauvais de spéculer un petit peu sur certaines choses, mais ça doit rester toujours dans le domaine de la spéculation. Non pas, je le sais, c'est comme ça, et vous devez l'accepter aussi. Ça peut paraître étrange quand je dis des mots comme ça. Est-ce que ça pourrait se passer dans l'Église de Dieu? Et oui, ça pourrait, et ça s'est déjà produit. Nous devons faire très attention. Implication, responsabilité personnelle, bon exercice de la liberté chrétienne, éviter l'hypocrisie et faire très attention dans l'enseignement et la doctrine. Ensuite, il est impliqué dans ce que nous avons vu à propos des pierres d'achoppement, des devoirs qui incombent sur nous. Nous avons des devoirs les uns envers les autres et envers Dieu également. Premièrement, nous avons le devoir de l'auto-examen, de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes vraiment dans la vérité, si nous nous comportons comme il faut, si nous pourrions peut-être mettre une pierre d'achoppement devant quelqu'un d'autre. Nous devrions évaluer régulièrement nos paroles et nos actions pour nous assurer qu'ils ne posent pas d'obstacles, ils ne posent pas de difficultés pour d'autres personnes. Cela nécessite une réflexion sincère et une discussion ouverte avec des frères et sœurs en Christ. Ça peut nous aider à identifier nos points faibles, discuter avec nos conjoints, avec des frères qui sont proches de nous. Avoir ce genre de discussion est très utile. Évidemment, à l'approche de la Pâque, nous sommes obligés de nous examiner. La Bible le dit, que chacun s'examine et qu'ainsi ils prennent la Pâque. Mais ça ne devrait pas être une chose qui se passe qu'une fois dans l'année. Ça devrait être une habitude à nous de réfléchir à cela, de prendre quelques minutes chaque sabbat ou chaque vendredi soir, de repasser en vue la semaine. Qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce que j'ai fait quelque chose qui aurait pu être nuisible pour quelqu'un? Est-ce que j'ai besoin de demander pardon ou de rectifier quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait? L'auto-examen. S'examiner régulièrement, personnellement, profondément, pour savoir, pour nous assurer que nous ne posons pas de pierre d'achoppement devant d'autres personnes. Un deuxième devoir que nous avons, c'est de toujours tenir un discours constructif, d'encourager les autres plutôt que de les critiquer. Parfois, on peut avoir une tendance, c'est humain, de vouloir vider son sac devant quelqu'un qui veut bien nous écouter. Parfois, on peut expliquer quelque chose qui est difficile, demander compris avec nous, etc. Mais nous devrions encourager les autres plutôt que de les critiquer. Colossiens chapitre 4, verset 6 nous rappelle que nos paroles doivent toujours être agréables, empreintes de sagesse, afin de savoir comment répondre à chacun, assaisonné de sel. Ça, c'est Colossiens 4, verset 6. Ce principe nous préserve des paroles imprudentes qui pourraient tromper ou affaiblir la foi de nos frères et sœurs. Encore une fois, c'est une chose très grave aux yeux de Dieu si nous posons des pierres d'achoppement, même par inadvertance. Donc nous avons, si nous prenons l'habitude de tenir un discours constructif, eh bien nous allons tomber moins dans ce piège, nous allons poser moins de pierres d'achoppement nous-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments quand il faut discuter de choses sérieuses et peut-être pas des plus encourageantes, mais en règle générale, nous devrions avoir le but d'encourager les gens. Une troisième devoir que nous avons basé sur ce que nous avons vu dans la Bible à propos de pierres d'échoppement, c'est de pratiquer la modération avec l'amour. Nous devons toujours exercer l'amour envers nos frères et sœurs. Dans les domaines de la liberté personnelle, une humble volonté de se limiter pour le bien des autres, cela témoigne puissamment de l'amour de Dieu. Cela rappelle le message de Jésus, que les croyants devaient prendre soin des plus vulnérables, prendre soin des petits. Ça, c'est un autre devoir que nous avons, de vivre une vie modérée, équilibrée, mais toujours penchée vers l'amour, accomplir le bien-être, le bien envers d'autres personnes, ceux qui nous entourent. Un quatrième devoir qui est impliqué par ces passages bibliques que nous avons vus aujourd'hui, la priorité, donner la priorité à l'unité dans le corps. À l'unité dans le corps. Nous devons nous efforcer de maintenir l'unité au sein de l'Église. Ça aussi, c'est une grande valeur aux yeux de Dieu. Cela permet d'éviter les malentendus qui peuvent engendrer des divisions, qui sont vraiment destructeurs. Les divisions sont destructrices au sein de l'Église. Une communication claire et un respect mutuel, même en cas de désaccord, et ça peut arriver, préviennent des conflits, des malentendus, des tensions entre personnes. Donc nous devons toujours avoir en tête qu'est-ce que je peux faire pour renforcer l'unité dans l'Église et réduire les divisions, les désaccords. Ça, c'est une chose qui est importante pour nous également. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous avez trouvé ce voyage à travers les passages de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, à propos des pierres d'échoppement. Nous avons vu plusieurs pratiques, plusieurs points pratiques, je veux dire. Nous ne devons pas mettre une pierre littérale d'achoppement devant quelqu'un qui est aveugle. Dieu peut être une pierre d'achoppement. Dieu pose des pierres d'achoppement devant des pécheurs pour les faire chuter, pour les faire tomber. Et nous devons faire très attention de ne pas être des pierres d'achoppement ou de poser des pierres d'achoppement devant nos frères et sœurs. C'est une chose qui est très importante aux yeux de Dieu. Rappelons-nous ces leçons à propos des pierres d'achoppement. Nous ne voulons pas tomber ou faire tomber les autres. Au contraire, nous voulons marcher droit vers le royaume de Dieu et aider nos frères et sœurs de faire de même.